France Inter.
C'est vrai, comme tu dis un truc comme ça.
Bonjour.
C'est la bande originale.
Et bonjour.
Avec Leïla Cadeau Bouddhadini, avec Lisa, cette moitié, Emma Beaujean, Tom Baldetti, Paul Delas,
bonjour.
Francky Pastureau, oui. Daniel Morin.
Coucou Tom.
Et nos invités, Odile Villemin et Franck Tillier.
Bravo.
France Inter. La bande originale,
Odile,
Leïla Cadour et Nagui.
Merci Odile, merci Franck de venir à ce micro.
Mais ouais, merci.
Pourquoi venez-vous à ce micro quand on a vu et on a su et on a compris le succès incroyablement fort de Il était deux fois.
Ouais.
Je parle du succès avant même que la série soit totalement diffusée, puisque elle a été présentée en preview, en intégralité, en tout cas sur le site France.tv. Et ça a atteint, on m'a dit, 7 millions, 8 millions,
oui, 8 millions
un score de dingue.
On a pas les derniers chiffres qu'on a ne datent que de lundi.
C'est rien,
ouais,
depuis,
je sais, on était
ça a doublé.
Fantastique.
Non,
on était à
bravo.
7 lundi, ouais.
Ouais.
Ce qu'on se disait à Codil, c'est heureusement que c'est un succès, parce que si on était venu ici,
on aurait l'air
un
bien
peu...
Peut-être on ne serait pas invité.
Bah, nous,
bah,
nous, surtout, on s'est dit, ils vont annuler. Tu fais 7 millions, tu lâches le game, tu dis, bah, je viens pas.
Tu lâches le game.
Oui. Bref, nous allons évoquer, donc, il était... le micro. Il était deux fois avec cette situation de cette...
gendarme.
Cette femme, ouais, cette gendarme qui se réveille un matin et en fait, plusieurs années se sont écoulées et elle a gardé ses qualités de policière, évidemment. Elle n'a pas gardé la carte pour continuer d'enquêter, pour continuer d'être gendarme. Mais elle est en quête de sa fille. Elle ne sait pas qui a tué sa fille ou si sa fille est encore en vie.
Oui.
C'est donc toute une enquête.
Elle se réveille ensanglantée, en plus.
Ouais. Et elle se réveille sans trop savoir ce qui s'est passé pendant 6 ans
12
ans.
Ouais.
12 ans.
Fois.
Alors,
il était deux fois. Vous avez tous les chiffres.
Multiplie tout par deux.
Justement, petit tour de table. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous réveiller sans savoir ce qui s'est passé la veille?
T'es sérieux?
Je suis sérieux. Lisa Delmoitier, est-ce que t'es déjà... Quoi, Tom? Il y a un problème?
C'est évident que oui.
Ah oui, bah, justement, il faut que tu me racontes.
En posant son verre.
Tu me racontes.
Du sud-ouest. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je ne vais pas aller là. D'ailleurs, j'ai eu une commotion une fois.
Wow. Ah merde.
Je suis tombée de cheval et je me suis réveillée. J'avais oublié que j'avais fait l'équitation. Du coup, je suis remontée à cheval et je suis retombée.
Ah oui, c'est quand même plus. Ouais. Ça, c'est plus grave.
Toujours sans fin.
Tom Baldetti, donc.
Moi, je vais aller là.
Non.
Je t'ai laissé, je me suis
dit. Non. Hangover, comment?
Bah. Souvent, quoi. Enfin,
au point de ne pas t'en souvenir.
Ouais, non, j'ai fait du rugby, comme disait Tanguy.
Oui.
Et le rugby, ça aide pas pour la mémoire.
Ouais. Oui, mais enfin, là, c'est pas une question de rugby, là.
Si, parce qu'on prend des coups à la tête et,
oui,
et pour
oui.
soigner ça, on boit du Ricard.
Oui,
avec modération, s'il te plaît.
Tom, dans une heure, ne se souvient pas de l'émission.
Ouais,
c'est vrai.
Emma Beaujean, est-ce que...
J'ai jamais oublié quoi que ce soit à cause de l'alcool. Par contre, une fois, un peu comme toi, je suis tombée dans les pommes dans un magasin de surgelés, parce que j'ai glissé. Je jure que c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai trébuché sur un paquet de petits pois.
Oh.
J'ai trébuché sur un paquet de petits pois et j'ai perdu la vue pendant 30 minutes. Et c'est dinguerie de rigoler comme ça, Olivier. Et après, en fait, le médecin qui m'a vu, il m'a dit, c'est comme si j'avais fait un gros KO de boxe. Quoi.
De boxe, type, oui. Mais non, mais pardon.
30 minutes sans voir.
C'est comme lorsque, dans la période du Covid, on perdait le goût ou l'odorat.
Ouais,
c'est
ça m'est arrivé aussi.
Un sens qui disparaît et qui fait super peur en se disant,
ouais.
À quel moment
ouais,
ça va revenir. Leïla, alors, si toi, tu t'en souviens pas, moi, je m'en souviens.
Oh, moi, je me souviens de tout. C'est ça. Vraiment,
Et contrôle.
J'ai une incapacité à perdre le contrôle, donc en fait je me souviens absolument de tout le temps. Je n'oublie jamais rien.
Quelquefois elle invente.
Alors moi je me suis retrouvé. J'étais des amis. Je sais pas comment ça s'appelle quand il y a des chambres.
Complices.
Non, quand il y a des chambres qui sont jumelles entre guillemets. C'est
ah
la
oui.
même mais à l'envers de l'autre côté.
Ouais.
Vous voyez ce que
miroir,
j'ai
hein.
Voilà, miroir. Merci. Non, c'est ça. Et donc
tu t'es trompé de jambe.
Et donc je me suis pas trompé de chambre.
Sur les forces de l'ordre.
J'étais allé un week-end. Chez mes potes et donc dans une chambre et le week-end suivant j'étais dans l'autre chambre et évidemment ce qui a dû arriver à tout le monde c'est tu te réveilles tu dis attends je suis où il est quel jour
oui.
Je suis en voyage je suis chez moi je suis pas chez moi tu reconnais pas la chambre et je suis allé donc pisser dans le placard parce parce que tout était inversé, y compris les toilettes.
Et j'avais perdu la vue.
Non, non, j'avais extrêmement envie. Je n'ai pas voulu éclairer pour ne pas réveiller la personne avec qui j'étais. Donc j'ouvre la porte, je rentre et je me dis ça doit être par là. Je commence et ça faisait pas le bon son. Voilà, je m'arrête là.
Voilà.
Tanguy,
ouais, c'est marrant ce que vous racontez parce que ça arrive souvent en tournée. Ça sert qu'à force de
pas savoir où tu es.
Et ouais. Ouais, on se souvient plus exactement. On se réveille le matin en se disant alors est-ce que je suis à Rennes, à Clermont-Ferrand, à...
Oui.
Voilà, et c'est tout. Au revoir. Merci.
La vie de star.
C'est pas mal.
Daniel.
Ouais. Ouais, alors moi une fois je savais pas pourquoi je me suis endormi dans un placard et un mec m'a pissé dessus. C'est vraiment un truc de malade. Genre, je préférais tout oublier. Hein.
Oldelaf, il t'est arrivé déjà de ne pas savoir ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille.
Tout à fait. C'est le lendemain de la fête du Beaujolais. Je n'allais pas très bien. Des copains m'avaient invité à la fête du Beaujolais. C'est vraiment vrai. À Paris, rue des Canettes.
Rue des Canettes,
dans le 6e. Voilà. Et je me suis réveillé dans le lit d'un monsieur que je ne connaissais pas.
Mais non.
Et j'étais tout habillé. Il ne s'est rien passé de.
Que tu crois ?
J'ai mis du temps à. Non, non, j'ai fait des examens médicaux. Tout était OK. Mais en fait, je ne savais pas où j'étais vraiment à ce moment-là.
Odile, pardon, à part la série, hein, dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation de ne plus savoir où vous êtes ou ce qui
s'est
passé ?
Non, moi en général, je ne sais pas si je suis Odile ou le personnage. C'est plus ça qui se joue.
Schizophrène, direct.
Non, une vraie comédienne à fond dans le personnage.
Voilà, merci. Voilà, voilà c'est juste une question de point de vue.
Écoute, j'essaie, il y en a qu'un.
Alors, pour le coup, sur ce tournage, ouais, c'était assez schizo, mais non, ça m'est... Non, pas du tout. Mais je bois. Alors, l'alcool, pas trop. Je me souviens avoir pris une cuite, mais je me rappelle exactement de tout ce que j'ai fait.
Ah, comme Leïla.
C'est le problème, d'ailleurs. Ouais. Il faut oublier. Mais...
Et alors, Fontilier, est-ce que cette série va chercher dans quelque chose d'autobiographique ou pas du tout?
Non, mais la mémoire, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Hein. Je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible que de se réveiller amnésique, de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a pu...
On perd
un morceau de sa vie, de son existence.
Ou de perdre la mémoire, la maladie d'Alzheimer, c'est une catastrophe.
Oui, oui,
et pour les malades, et pour toute la famille et le cercle proche.
Oui, oui, c'est ça ce qui est fascinant. On peut oublier 12 ans de sa vie, comme on peut oublier où on a mis ses clés, juste, ça arrive à tout le monde, un numéro de téléphone.
C'est moins grave, je ne sais pas.
Oui, mais c'est assez terrifiant de se dire, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, j'oublie de plus en plus.
La malice de l'auteur est d'éviter de répondre à la question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'il n'a toujours pas dit si oui ou non vous aviez eu, voilà, une faille spatio-temporelle où vous ne savez pas ce qui s'est passé la veille.
Ça m'est arrivé, mais je ne m'en souviens plus. Oui. Non, ça arrive souvent. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire une sieste bien lourde un après-midi et vous vous réveillez et là vous ne savez plus du tout où vous êtes. Quand ça dépasse un certain temps.
Si vous avez passé la nuit ou pas.
Oui, c'est ça. Alors, c'est terrible, terrifiant.
Étudiant, il m'est arrivé un truc dingue parce que étudiant, on croit qu'on arrive à stocker les nuits blanches en disant je récupérais. Et un jour, j'ai dormi vraiment.
T'as fait le tour ?
26 heures. Et donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on se réveille au bout de 26 heures, en fait, on est extrêmement faible et on n'est pas bien.
Et on est hier, surtout.
Et on est fatigué comme si on n'avait dormi que 2 heures.
Et, oui.
Et donc, donc, on se réveille en disant ah, je suis pas bien, j'ai pas assez dormi, il faut que je me rendorme. Et vous avez beau dire, on est quoi ? On est jeudi, t'étais où hier ? Bah, hier, c'était mardi, non, c'était mercredi. Enfin, on est tout est paumé. Et là, c'est très, très, très.
Et t'as cru le juge.
Non, mais tu me rends. C'est vrai que c'est flippant quand c'est les autres qui racontent votre vie, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Et qu'on n'est plus témoin de ce que l'on a fait soi-même. Le succès, donc, de Il était deux fois, on va en parler. Cette série passe sur France 2, évidemment. Vous êtes, Odile Vimin, l'héroïne qui portait cette série à Broadway. Franck, vous en êtes l'auteur ou celui qui a accepté que ce soit adapté du roman et c'est disponible sur France.tv pour ceux qui veulent voir l'intégralité, sinon les deux derniers épisodes passent ce soir.
Les deux pas derniers,
intermédiaires. Parce qu'on a tout vu.
3 et 4. Les 3 et 4 passent ce soir et les 5 et 6 passeront la semaine
prochaine.
Voilà. Voici Oldelaf, fan de Franck Tillier.
Le maître du thriller, il traite tous les sujets, car la Bruni n'a pas aimé votre livre sur Charcot. J'ai hâte que vous fassiez Chiotti, ça sonne pile comme il faut. Je suis fan d'Odile Vuillemin, comédienne avec le plus incroyable destin. Vous êtes né dans la Marne, horrible, fallait que ça cesse. Vous avez rêvé de bien mieux, vous êtes allé à Metz. Et vous êtes là ensemble pour Il était deux fois. Odile, vous êtes Gabriel Moscato, je vois. Je crois que Leïla vous a invité invitée à la radio parce qu'elle est super fan de Vincent Moscato. Oui. Oh, je suis fan de vous et d'Il était deux fois. J'étais déjà vraiment très fan d'Il était une fois. Je parle pas du premier tome du livre de Franck Tillyès. Je parle du groupe des 70s, c'est les deux qui chantaient. Oh.
Changement d'instrument.
Oh, oh yeah.
Emma en guest.
Le soupir.
Elle s'appelle Gabrielle.
Odile aussi.
Je n'ai rien fait pour ça.
Ben non, tant pis.
Elle n'est pas vraiment belle.
Mais ça se dit pas.
Là, je parlais de toi.
C'est pas sympa.
Si je pouvais un jour jouer du frontier. Juste un rôle d'un soir.
Tu rêves.
Et s'il tourne, il était trois fois. Ce serait bien. Tu vas rester à chroniquer. Une chronique, juste toi et moi. Et demain matin, on sera là. Odile, vous aviez pris 15 kilos pour le tournage, c'est fou.
En même temps, toi, t'as fait pareil sans tournage du tout.
Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Ils sont sur scène, pas ensemble, heureusement. Old Enough sera à Lille dimanche.
Ah, je saigne des oreilles.
Emma Beaujean sera à Lille le 25 janvier.
Bravo, excellent.
C'est super, bravo.
Oh, vous n'êtes pas obligé de dire excellent. Hein.
Si, si, bah attends.
J'adore, moi. Non, vous n'êtes pas obligé.
On a pardon, voyagé avec les oreilles.
Odile Vimin, Franck Tillyès avec... Franck Tillyès. Ah oui, c'est vrai, c'est
avec un Z.
T'as raison.
Avec trois Z, même.
Ça va arranger pour la rime. Voilà.
L'adaptation de ce roman, est-ce que beaucoup de choses ont été, doivent changer pour les codes de la télévision, pour les codes du rythme, pour avoir des cliffhangers, comme on dit, à la fin de chaque épisode, pour qu'on ait envie de rester au suivant?
Oui, oui. Alors, le livre est déjà très, très animé. Hein, c'est un thriller. Effectivement, c'est dense. Donc, il faut étaler cette densité qu'on retrouve dans le livre sur 6 épisodes. C'est un découpage différent, hein, puisque le livre, c'est plutôt des petits chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, on essaye de mettre des rebondissements.
Non, et puis l'équilibrer en termes de timing. C'est-à-dire, quand un livre, on ne sait pas si on en est à la 45e minute ou à la 50e minute, si ça devenait une fiction.
Oui, oui. Mais ce qui est pratique, c'est... A priori, le genre du thriller s'adapte très très bien en série. Hein. C'est le cas de beaucoup d'auteurs qui sont adaptés en ce moment. Et le format de la série est génial parce que il y a encore quelques années, on adaptait plutôt en film. On avait beaucoup de mal à condenser
tout resserré,
cette histoire.
Ouais.
Donc on avait des films qui duraient 2h15, 2h30 et qui ne racontaient pas tout. Alors que là, dans la série, on a vraiment le temps de développer les personnages et c'est ce qui est toujours très très important.
Est-ce qu'elle est... elle est en dépression ou elle... Non, c'est un non tout de suite, d'accord, ok.
Non, un peu borderline quand même.
Non mais comment vous la définissez au début de main?
Oh là là, complexe. Non, j'aurais pas dit en dépression. En dépression, on sort pas de son lit. Elle sort. Elle est pas en forme.
Elle a subi un traumatisme en tout cas. Là, on sent qu'il y a.
Elle est défaite pour moi. Elle est. Je sais pas si détruite, c'est.
Brisée.
Elle est complètement brisée. Mais ça l'empêche pas d'avancer. De pousser beaucoup de portes, même si elle n'a pas le droit. Enfin, en fait, je trouve qu'elle est tombée tellement bas qu'elle a cette espèce de sursaut de vie qui fait qu'elle fera n'importe quoi. Parce que de toute façon, si elle arrête sa quête, elle crève.
Elle a perdu sa fille. Il y a une suspicion de meurtre en série ou en tout cas de connexion avec d'autres disparitions. Il y a des enquêtes. Et
ayant tout vu,
j'ai peur de spoiler.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle reprend sa propre enquête. Elle redécouvre sa propre enquête.
J'ai presque envie de dire, elle veut refaire son travail de maman qu'elle a peut-être le sentiment de ne pas avoir fait en temps et en heure.
Oui, il y a une culpabilité par rapport à ça. Après, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que quelque part, j'ai pas tant construit ça là-dessus. Et dans les retours, à chaque fois, on ne me parle que de l'amour de la mère. Alors que moi, je l'ai construit complètement à l'opposé. Je l'ai construite par défaut d'une urgence quasiment sanitaire personnelle de mener cette quête pour pas crever. Parce que si elle, il y a plus ça qui la tient, en fait, il y a plus rien.
Oui, parce qu'elle a plus son mari. 12 ans après, elle se réveille.
Quand elle se réveille, c'est sa journée, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'elle elle a plus son mari, elle a plus son taf, elle habite chez sa mère, quoi. Enfin, et elle a plus la mémoire non plus.
Et son mari attend un bébé.
Avec son médecin.
Moche.
Elle est vraiment en bas.
Elle est très jolie.
Elle est en bas de la.
La situation est moche.
C'est le personnage de thriller, quoi, typique. Le personnage qui démarre vraiment tout en bas avec tout un tas de problèmes qu'il essaye de surmonter parce qu'on va le voir au fil de la série. C'est une combattante, donc elle a tous ces gros problèmes, elle va réussir à les combattre.
Oui.
J'ai juste peur, encore une fois, de dire ce qu'il ne faut pas dire. En tout cas, on peut dire qu'il y a Hubert Delattre, qu'il y a Nicole Calfon, qui est sa maman, qui tient un bistrot aussi. Et on est dans une...
Pratique.
C'est pratique surtout pour entendre parler les uns et les autres, parce que c'est discussion de troquet, parce qu'on se confie, parce qu'on entend la discussion de la table d'à côté. Enfin, c'est vraiment un lieu aussi clé dans des enquêtes, et dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, depuis des centaines d'années.
Et tous les personnages sont louches. Il y a un personnage d'auteur, d'écrivain, un peu votre double, on pourrait dire, Franck, qui lui aussi, on se dit toujours qu'il y a une menace avec un auteur. Il y a aussi ce commandant de police qui boite, incarné par Soren Prévost, qui est aussi un peu énigmatique. Tout le monde a son petit mystère, en fait.
Il y a Tom Novembre, Lannick Goldry, tu parles de l'auteur, c'est Lannick qui joue Caleb Traxman. Son père est son éditeur aussi, Tom Novembre. Il y a toujours, et puis il y a François-Éric Gendron qui est votre le père, alors qui est le nouveau mari de votre mère.
Petit copain.
Petit copain. Non mais en fait tout est entremêlé avec des histoires de famille et des rapports de famille et une intrigue où on se demande qui est sincère, en fait. C'est même pas une question de qui est coupable ou qui est innocent.
Qui cache quoi ?
C'est qui est sincère dans sa vie.
Oui, c'est ça. On est vraiment dans une petite communauté, une petite ville isolée, hein. Donc il y a cette unité.
Où tout le monde se connaît.
Oui, tout le monde se connaît, tout le monde est suspect. C'est la force du livre et de la série. C'est-à-dire, on est dans ces séries où, en fait, où qui a fait le coup ? Qui a tué, qui a orchestré cette disparition ?
Et ça s'est forcément passé entre nous, c'est forcément l'un de nous qui a fait ça.
Et tous les personnages, il n'y en a pas un qui est gratuit, ils apportent tous une pierre à l'édifice, et à chaque fois on se dit au fil des épisodes, c'est lui qui a commis le crime, j'en suis certain, et puis hop, non, c'est pas lui, il y a un rebondissement. Donc on est vraiment dans cette structure-là, ce qui fait qu'on est scotché, qu'on essaye de comprendre et de deviner qui est, avec cette modernité de l'amnésie qui apporte vraiment un souffle nouveau. Quoi.
Mais c'est intéressant, Odile Vimin, quand vous expliquez votre personnage en disant, mais non, c'est pas une mère qui essaye de rattraper la faute qu'elle a commise, ou la tension électrique avec son adolescente. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire, de toute façon, de se fâcher avec quelqu'un qui disparaît le jour même, de se dire les derniers mots prononcés n'étaient pas des mots d'amour. Oui. On s'est fâché, que ce soit dans un couple, que ce soit avec ses parents ou avec ses enfants.
Avec la police.
Se dire les derniers mots prononcés, on se dit toujours, il ne faudrait jamais que ce soit des mots tendus ou des énervements. Et là, les derniers mots échangés, on sent qu'il y a des vrais problèmes entre l'ado et sa maman. Il y a beaucoup de flashbacks qui reviennent parce qu'elle essaie de reconstruire justement sa mémoire 12 ans après, et elle repose toutes les mêmes questions à tout le monde en se présentant aux uns et aux autres en disant, je vous préviens, j'ai tout oublié, je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Que ce soit, j'ai couché, je vous ai arrêté, je vous ai mis en prison, je vous ai libéré, n'en sais rien. Ouais. Reprenons tout à zéro, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est super intéressant. Je rebondis déjà sur ce qui a été dit, parce qu'il y a quelque chose qui était aussi très intéressant, c'est le fait que tout le monde se connaisse. Du coup, c'est vrai que même sur des interrogatoires, en fait, on ne va pas interroger, comme c'est souvent dans les séries policières, on va voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on pose des questions, puis on revient, puis peut-être... Et puis voilà,
on sait déjà des choses.
C'est plus détaché quand on ne connaît pas.
Oui, c'est plus détaché. Ouais. Alors que là, tout le monde se connaît, donc tout le monde a des doubles jeux. Donc c'est vrai que c'est ça aussi à jouer. C'était hyper intéressant, cette proximité. Du coup, j'ai complètement oublié la question.
Mais vous avez fait une réponse quand même, c'est ça qui compte.
Non, de cette construction de celle qui veut se retrouver. Ouais, non, mais retrouver la vie et pas spécialement renouer avec son côté maman. Alors moi, je l'ai vécu comme vraiment une maman qui était.
Mais tout le monde l'a vécu comme ça.
Ouais, j'entends.
Donc je trouve ça assez joli, je dois avoir un côté très maternel caché, totalement refoulé en fait, je ne sais pas.
En tout cas, ça fonctionne déjà, plus de 7 à 8 millions de personnes ont vu la série intégralement sur France.tv.
Ça sert à rien du coup de le programmer, de le mettre
Mais si, ça sert, parce qu'il y a encore des millions de gens qui la regardent. Si, il y en a eu 3 de plus le premier soir, et sûrement 3 voire 4 ce soir. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, c'est réussi.
Du coup, c'est utile, le service public.
C'est bien joué. Écoute, ça fait réfléchir en tout cas. Et ça rapporte. Il était deux fois surtout au service public. C'est sur France 2 ce soir. Voici Lisa Delmatier. Lisa, vous n'auriez pas adapté le roman de Franck Tillier comme ça?
Non. Pourtant, Dieu sait que j'ai déjà eu des lendemains de soirée carabinés. Et putain, oublié 12 ans de ta vie, t'as plus une gueule de bois là. T'es officiellement un reine. Merci. On le savait. Faut pas avoir des choses d'antiseptique, Odile, quoi. Ça se désinfecte pas un foie. Et pourtant, après 12 ans d'amnésie, votre personnage se remet à boire. Et il lui faudra quoi pour enfin arrêter de picoler? 13 ans d'amnésie? C'est quoi le but? Surpasser Depardieu, faut se mettre à équitation déjà. Bon, cela dit, l'amnésie a son intérêt quand même. C'est souvent le cerveau qui te protège d'un trauma. Et là, c'est une fameuse expérience traumatisante puisque votre fille disparaît. Faites des gosses, hein, franchement. Le cerveau, et il n'y a que le nullipare qui rit. Le cerveau est magique. Hein. Moi aussi, quand j'ai des trous noirs en soirée, c'est mon cerveau qui me protège de l'enlèvement de ma fierté, principalement. C'est fou, mon cerveau débranche systématiquement 2 minutes avant que j'avertisse tout le bar qu'il faut se méfier de la pleine lune en montrant mon cul. C'est systématiquement à ce moment-là. Il faut dire, j'ai de l'acné sur le corps.
Non.
Donc en reliant les points, tu peux même voir la grande ours.
J'en supplie.
C'est impressionnant. Ce serait bête de ne pas le partager, mais votre personnage, quel trou noir. Son dernier souvenir, c'était en 2013. On y va. En 2013, moi à l'époque j'avais 12 ans. Période compliquée. Honnêtement, je ne serais pas mécontente d'oublier mes premières règles. Et mes deuxièmes règles aussi d'ailleurs. Et mes troisièmes. Les menstruations, c'est comme le film Sharknado. Vous voyez, c'est le film avec la tornade de requin. C'est nul le 1 et ça va pas en s'arrangeant. Quoi. C'est ça. T'imagines, tu t'endors, c'est Obama, tu te réveilles, c'est Trump. Mais le choc, quoi. Bon, en même temps, faut pas idéaliser Obama. Le mec bombardait l'Afghanistan depuis un ordinateur. Les présidents américains, c'est comme mes règles. C'est jamais ouf. En plus, notre époque va tellement vite. En 2014, tu vas chez le psy. En 2026, tu demandes à ChatGPT pourquoi l'avenir te fait peur. Et il te répond, parce que moi, voilà. En même temps, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de pas se souvenir, franchement? Regardez les poissons rouges comme ils ont l'air heureux. Alors que moi, 20 ans plus tard, je suis encore hantée par la fois où devant toute la classe, j'ai appelé ma prof de maths maman. Super honte. Je ferai un excellent poisson, moi. Je suis complètement con et j'appelle mes ovules du caviar. Bon, mon ex m'a dit, des œufs de l'ombre, Lisa, on va pas s'emballer. Oh. Mais bref, je diverge. Verge. Votre personnage, Odile, s'endort donc pendant 12 ans dans n'importe quoi. Je suis fatiguée. Dans une chambre d'hôtel.
Tu te réveilles.
Donc elle s'endort 12 ans dans une chambre d'hôtel. Pardon, mais c'est pas très efficace, les femmes de chambre, quand même. Imagine le commentaire TripAdvisor, quoi. Bon, après, en même temps, tant mieux, parce que moi, je trouve que le service de chambre est toujours un peu trop intrusif. Moi, j'ai beau mettre la petite pancarte, ne pas déranger, t'en as toujours une pour venir frapper, pour me changer les produits de la salle de bain. Pour la dernière fois, les hôtels, personne n'utilise votre petit kit de couture, là. Inutile de changer tous les jours. Sans parler de la charlotte en plastique. Ouais. Je suis cliente, ok, je suis pas cuisinière dans une cantine. Je vais pas entendre une charlotte tous les jours. Depuis 13 ans, j'arrive pas à croire ce que je dis. Depuis 13 ans, dans un hôtel, imagine la facture. J'espère que c'était un Ibis Budget. Donc donnez-moi l'adresse, pitié. Parce qu'avec, j'arrive même pas à finir. Avec les conneries que je viens de me raconter sur ma grande ours et mes œufs de trompe, je ferais bien une petite sieste de 13 ans.
Merci. Endors-toi, ça va bien se passer. Lisa Delmoitier, Frontignac, non seulement vous avez écrit le roman qui est devenu la série, vous avez coaché un tout petit peu Odile, vous êtes parlé, vous avez Odile ressenti le besoin d'appeler Frontignac et de, d'échanger avant de tourner.
Ouais, enfin, l'envie surtout, mais j'ai pas lu le roman. On m'a supplié de pas le lire. Non, je rigole. On m'a dit que l'adaptation était très différente et j'avoue, je pense que j'aurais eu très très peur de le lire.
Pourquoi?
Parce que ça me fait tout très peur, tout ça, moi.
C'est vrai?
Ah ouais, je suis une.
Et vous, comment avez-vous jugé?
J'ai peur d'avoir les
Gremlins,
parce que... je comprends.
Lorsqu'un romancier est adapté à l'écran, c'est une forme de trahison. Est-ce que vous avez senti cette trahison ou au contraire une optimisation?
Non, alors, moi je le prends pas comme une trahison, puisqu'on a le choix, au moment où les producteurs viennent vous voir, vous avez le choix de dire, bah non, je ne veux pas
l'adaptation. Ah oui, mais une fois que c'est signé, par contre,
oui, alors,
il faut lâcher prise.
Il faut jouer le jeu, il faut lâcher prise. J'ai très, très heureux de l'adaptation. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours un petit stress de dire, est-ce que je vais retrouver mon univers? Dans le livre, c'est plutôt c'est Gabriel masculin, dans la série, c'est une femme. C'est le gros changement, mais ce qui comptait pour moi, toujours, en tant qu'auteur, c'est de retrouver l'univers des livres, les grandes questions qu'on se pose, et les personnages, surtout. C'est vraiment c'est la clé, pour moi, d'un roman réussi, d'une série réussie.
Est-ce que vous aviez négocié votre présence en caméo, en gendarme, dans la série, en disant,
ça, c'était,
je veux bien que vous l'adaptiez, mais je veux un rôle?
Mais même pas, ça s'est fait, en fait, un peu naturellement. Je suis allé une journée sur le tournage, voir comment ça se passait, puis ils m'ont dit, bah tiens, il y a une tenue de gendarme.
Mais non.
Mais c'est total
impro.
Mais de l'impro. En plus, je parle dans la série, ce qui est incroyable. Et ça s'est fait de l'impro, et je suis très heureux de l'avoir fait. Ça fait une petite apparition que les lecteurs ont repéré.
C'est contractuel maintenant.
Aussi.
C'est contractuel. Dès que c'est adapté, vous avez
un Hitchcock, oui, bien sûr.
Oui, il était dans tout, que ce soit le passant qui passe ou le gars qui lit le journal. Il était derrière le journal, en tout cas.
Il était toujours dans
Il y a forcément un plan où il était. Un succès formidable, c'est toujours délicat d'expliquer le succès, surtout quand il est en cours de route. Donc on espère qu'il va continuer de progresser. Mais qu'est-ce qui... Oui, toucher tout le bois possible, imaginable, Odile. Vous avez Lisa Delmoitier à côté.
Touchez-moi. Voilà.
Sur justement le ressort qui fait que ça fonctionne, est-ce que ce sont les rebondissements? Parce qu'il y en a énormément, il y a beaucoup de twists. J'aime pas trop ce mot parce qu'il y a une forme de légèreté, mais j'en ai pas. Des retournements de situation, des surprises, des rebondissements. Mais quand on se dit, on a une personne qui est morte, la maman fait l'enquête dessus. Déjà là, on se dit, est-ce bien raisonnable quand on est soi-même impliqué dans la tristesse d'un décès de se retrouver juge et partie. Mais en tout cas, et d'ailleurs, les interrogatoires se passent relativement mal. Dès l'instant où elle a la moindre suspicion, elle prend le couteau de cuisine, elle prend le gun, elle colle le mec contre le mur en disant, dis-moi où est le cadavre, parce qu'il faut retrouver le cadavre. Et même quand on l'a retrouvée, même quand elle se réveille et que l'enfant a été enterré et encore une fois, je ne sais pas si au 3 et 4 on a déjà...
Il y a déjà eu la mort de l'auteur à la fin du 2.
Il y a déjà eu la lettre ou pas?
À la fin du 2, il y a la mort de l'auteur.
Ah oui, les gens sont censés l'avoir vue, la fin du 2, on apprend que ça...
Je sais pas si je non, on peut pas dire.
Il y a des gens qui l'ont pas encore.
Si, je crois qu'il y a eu la lettre parce que elle le dit à Paul.
Oui, mais vraiment la fin.
Ça, lui
en tout cas, on apprend que finalement cette mort c'était un suicide, qu'il y a une lettre qui a été faite avec.
Et bam, voilà.
Fichu,
ne sais rien.
Pas du tout.
On l'a recherché maintenant.
Et en même temps, il faut aussi le croire. C'est-à-dire que non seulement il y a des indices, mais il y a la suspicion de j'y crois pas, il y a un truc qui marche pas. Et puis tout le monde ne dit pas tout. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois répliques dans la série où je revois Nicole Calfan qui dit « Mais pourquoi tu lui as pas dit ? Pourquoi tu lui as pas dit ? Pourquoi tu lui as pas dit ?» Donc on comprend qu'il y a, en plus, parce qu'ils se connaissent tous, des non-dits comme pour la protéger.
Exactement.
Qui rajoute une dose de suspense. C'est-à-dire que on est un peu dans le même état qu'elle en termes d'enquête. On est de
son point de vue qu'on adapte.
On est du point de vue de la victime. Hein. Alors c'est Odile Gabriel, c'est le personnage fort de la série, c'est le héros, mais en même temps c'est la victime parce qu'elle se réveille comme ça, oui. Complètement paumée. Donc le spectateur, il est comme elle, c'est-à-dire il se dit mais qu'est-ce qui m'arrive. Enfin, je pense que le succès de la série repose aussi sur un concept initial très très fort qui est cette amnésie, c'est-à-dire elle s'endort dans une chambre d'hôtel en 2013, sa fille vient de disparaître, elle la recherche, elle est gendarme et elle se réveille 12 ans après dans la même chambre d'hôtel, toujours en cherchant sa fille et on lui dit, bah, ta fille on la cherche plus puisqu'elle est morte, l'enquête est terminée. Donc vous imaginez, tout repose en fait sur ce démarrage-là qui est très fort, donc quand on est spectateur on a envie de savoir ce qui va se passer.
Et elle se réveille en se demandant si elle a peut-être pas tué quelqu'un.
Bah en plus, parce qu'effectivement,
elle a des hématomes, elle a du sang.
Alors, elle ne dort pas 12 ans dans la chambre d'hôtel, en fait.
Non.
Elle y va la veille, et elle a cette amnésie qui se déclenche, et donc, pour elle...
Elle a quand même vécu pendant 12 ans, mais elle ne sait pas ce qu'elle a vécu.
Voilà, elle y était en 2012, elle y revient en 2025, voilà. Et c'est en 2025 que se déclenche son amnésie dans cette même chambre. Pourquoi elle était dans cette chambre ? Bizarre.
Ah oui. Ce qui fait qu'elle enquête à la fois sur elle-même, sur sa propre enquête qu'elle se rend compte avoir menée. Enfin, donc il y a plusieurs degrés en fait d'enquête.
Mise en abîme.
Ouais, exactement. Oui.
Il était deux fois ce soir sur France 2, deux épisodes, l'intégralité sur France.tv. On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Tom Baldetti.
Bonjour, je suis Tom. Ça va ou quoi ?
Et toi ?
Très bien, je me suis inscrit à la salle de sport.
Bonne vanne.
C'est pas criant. Hein. Non, mais je me suis promis cette année d'avoir comme bonne résolution de donner 30 euros par mois à un organisme qui me verra que le jour de mon inscription. Quoi. Moi, dans la vie, j'ai peur de l'engagement. Là, j'ai signé pour un an. Je pensais pas que ma relation la plus longue, ce serait avec un gymnase. Quoi. J'ai peur de me retrouver dans un an, larmes aux yeux. Écoute, Basic Fit, faut qu'on parle. Le problème, c'est pas toi, c'est moi. Je sens que ce gros sac à dos orange est en train de créer une vraie distance. Je pense que c'est ça le business plan des salles de sport. Quoi. Ils se font financer par des gens bourrés qui prennent un abonnement le 31 décembre en disant « Cette année, j'aurai des abdos » et finissent avec des agios. Quoi.
Bien.
Ouais,
j'aime bien.
Elle est mieux à l'écrit qu'à...
l'oral, au contraire.
En fait, ça, en braille, c'est banger. Moi, je croyais qu'on devenait musclé à partir du moment où on avait un abonnement à la salle, en fait. J'avais oublié le moment où il fallait aller à la salle, en fait. En plus de l'abonnement, il faut la discipline, et ça, ils ne la vendent pas dans l'offre. Quoi. Par contre, sociologiquement, c'est marrant d'aller à la salle. Je pense qu'au fur et à mesure de l'année, la population, ce n'est pas vraiment la même. Quoi. En janvier, il y a les gens qui sont encore persuadés d'être motivés pour l'année. On va voir si en avril, ils connaissent encore l'adresse. Quoi. C'est comme la fac, en fait. En septembre, en L1, les amphis sont bondés. 3 mois après, ça finit à 12 par TD. Je suis pas sûr de valider mon année, quoi. Et je trouve fascinant de soulever des trucs plus lourds que soi, quoi. Comme si on était des bousiers, au final. Je trouve ça incroyable. Moi, je bois de l'eau du robinet parce que j'ai du mal à déplacer un pack d'eau. J'arrive pas à avoir l'intérêt de soulever des centaines de kilos. C'est peut-être au cas où ils sont appelés pour aider à un déménagement, quoi. Moi, j'habite dans un appartement meublé pour ne jamais avoir à soulever une machine à laver. Puis l'hygiène de vie qu'il faut, c'est fascinant, quoi. Moi, je tente un drive januari, je vous l'ai dit. Je pense qu'à la salle, il y a des gens, ils font un drive 21e siècle. C'est fou. Le plus important, c'est ce qu'on mange. Apparemment, faut pas manger n'importe quoi. Mais moi, je fais du sport pour pouvoir continuer de bouffer des frites.
C'est bien.
Je crois que le plus dur à la salle, c'est pas de soulever des poids, le plus dur, c'est de pas se comparer. Et quand t'es à côté d'un être humain qui a les capacités physiques d'un taureau andalou, c'est un peu compliqué. On pose des questions. Ah ouais, il doit avoir au moins 12 machines à laver, lui. Il vit dans une laverie ou quoi? C'est à cause des réseaux, en vrai. Moi, s'il y avait pas Instagram, je me serais jamais inscrit à la salle de sport, quoi. C'est à cause de ça que les critères de beauté ont changé. 8 abdos, c'est beaucoup trop, en vrai. Eh, les gens musclés et beaux, là, mettez-vous en privé sur Insta. Parce que après, nous, on vous regarde en mangeant des gâteaux trempés dans des verres de larmes. Moi, j'aurais adoré grandir à une époque où les critères de beauté c'était juste avoir toutes ces chicots, quoi. Peut-être qu'à cette époque il y avait des...
Daniel, il est touché.
À cette époque il y avait des... Mais c'est gentil de dire à voix haute.
Moi je t'écoute.
C'est gentil. Fois c'est gentil. Peut-être qu'à cette époque il y avait des salles de brossage de dents, quoi. Genre, basic teeth. Ouais, vraiment
bravo.
Le rapport à son corps, c'est très pénible. Acceptons-le, respectons-le et ne faisons pas de lui un prétexte pour se détester. Merci de m'avoir écouté.
Merci. Bravo. Bravo.
Alors Tom Baldetti qui sera avec son corps formidable, attention, c'est long. À Clermont-Ferrand ce soir, à Bourg-les-Valences, demain à Béziers le 16 janvier, à Grafson le 17 janvier, à Besançon le 22 janvier et à Nice le 29 du même mois.
Et quand il rentre sur scène... Muscle.
C'est la transition.
Oh, tu veux pas c'est pas une bonne entrée sur scène. Non.
Mais c'est requis en slow en même temps, donc je sais pas quoi.
Faut ouais, le c'est vrai. C'est... Peut-être ça alors.
Ah, ça, ah, voilà,
ça c'est mieux ça pour rentrer.
Ça, c'est le dentiste.
Et là, tu vas arriver le physique de Tom Baldetti, je pense que c'est un premier rire.
Ouais. Moi, ça peut marcher comme entrée.
Vous êtes chaud
Ouais, pas ouf.
La musique, justement, celle de la série, il était deux fois. S'il y a bien une chose qui n'est pas dans le roman ou qui n'est pas adaptable, c'est la musique. Et pourtant, je dis souvent que la musique est un personnage dans une série ou dans un film. Avez-vous eu votre mot à dire, Franck Tillier, sur la musique il était deux fois?
Non, je l'ai juste entendu lors du visionnage des épisodes. Et elle est effectivement, elle apporte beaucoup. Hein. Ce sont toujours des séries d'atmosphère. Oui. C'est ça qui fait le thriller aussi de la série. Donc il y a ce lieu, la ville de Sakas, et puis il y a cette musique, cette ambiance.
Qui est plutôt douce, légère, qui est pas anxiogène, mais qui fait quand même flipper.
Là, oui, bah oui,
c'est ça qui est fou. C'est tellement doux dans la tension qu'on se dit waouh, c'est louche.
C'est vrai, c'est un mélange de nostalgie et de terreur, un peu, j'ai l'impression là.
Ouais, c'est réussi. On va parler des amnésies traumatiques, sujet donc d'Il était deux fois, avec Hugo Botman, qui est psychiatre et chercheur. Tout à l'heure, il sera notre invité. Mais la musique dans vos vies, Odile Vuillemin, on va commencer avec Bobby Bear. Away from home, country music. C'est rare que nos invités choisissent de la country music dans cette émission.
J'adore la
country. Ouais, moi aussi, mais ça vient de vos parents. Comment vous avez,
non, pas
vous avez
du
été
tout.
En alors, contact avec la country?
Vous aimez la viande?
Les saloons?
Chibos?
Les bottes? Je sais pas si c'est des films que j'ai vus ou ma passion du voyage. À vrai dire, je sais pas, ça a toujours été un peu là. Ça et la musique tahitienne, quoi.
Ah oui, rien à voir. Ok, on est d'accord.
Oui, une telle passion du voyage que vous vouliez être ethnologue,
ouais.
Mais vous passez par HEC.
Ah, raté.
Voilà.
Ouais.
Une autre espèce.
Mais rapidement, vous partez à Paris, et là, c'est là que vous apprenez le chinois, le tahitien.
Ouais.
Vous faites plein d'expériences professionnelles, en fait, parallèlement, et aussi vous continuez à... Vous prenez des cours de théâtre ?
Je prends des cours de théâtre, je travaille chez un antiquaire, je travaille chez...
Dans une parfumerie ?
Voilà, celle-là. Et
celle-là.
Tout en passant des castings, c'est-à-dire que...
Ouais, tout en passant des castings, tout en...
Comme beaucoup d'actrices, c'est-à-dire il faut quand même bouffer, il faut quand même...
Oui, oui, j'ai posé aussi aux Beaux-Arts, j'étais modèle. Moi, j'adore ça. Moi, je suis une éternelle étudiante. Oui, c'était assez réparateur, en vrai.
Pas gênant.
Au début, j'imagine.
Non, parce que... J'avoue que moi, ça m'a même réparée à un moment donné. Vrai que dans le cinéma, on est très sexualisé, quelque part. Mm-hmm. Et du coup, quand vous arrivez et que vous posez aux Beaux-Arts, en fait, il n'y a pas du tout ce regard-là. C'est vraiment un regard d'esthétique pure, et du coup, c'est une forme de se réapproprier son corps aussi, ouais, contre toute l'attente.
Et le corps devient un accessoire de jeu, justement, et de présentation, plutôt que j'ai un défaut, j'ai des formes qui sont dans les codes de la norme attendue.
Oui, c'est pas, ça, c'est... oui, bah, ouais.
Quand on est adolescente et quand on est jugé dans des castings, quand on fait des books, quand on vient se présenter.
Oui, c'est très
chouette. Premier regard, c'est d'abord sur le physique.
Complètement.
Premier jugement, même si c'est le plus dur.
Ah oui. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit tu feras jamais 10 millions, parce que j'ai les cils qui sont pas de la même couleur, et on m'a dit tu feras jamais 10 millions avec tes cils.
10 millions, ça veut dire
de spectateurs, d'entrée.
Ah,
wow.
Ça, c'est quelqu'un qui était très.
Ah ouais, c'est quelqu'un de pointu. Il a compté les cils, il n'y a pas de.
Non, mais donc.
Mais je vois pas le rapport. C'est bizarre.
Non, mais c'est juste. Moi non plus, mais j'avais pas la gueule. On me disait que j'étais atypique, que jamais je ferais. Une série en prime, que j'étais pas assez normale, quoi. Mmh. Bon, ça bah, c'est vrai, vrai mais
vous dites, ils sont bizarres quand même aussi. C'est vrai.
mais du coup, c'est vrai que oui, on est jugé. Enfin, il y a ce type de jugement qui s'arrête, qui cherche pas du tout l'intérieur, ni une forme d'esthétique artistique comme on peut l'avoir aux Beaux-Arts. Donc en fait, c'est vrai que moi, ça m'a aidé à me reconstruire. Et puis après, pour revenir à la question de base, moi, j'adore apprendre. Donc tout ce que je peux apprendre que je connais pas, je suis assez fan. Donc actrice, c'est sympa parce qu'on fait plein de métiers.
Ouais, et que ça alimente justement l'expérience des autres métiers alimentent le travail de, et le métier d'actrice. Franck Tillier, vous écoutiez une autre ambiance. Et il rock à quel endroit, Franck, à ce moment-là? On est dans les années toujours 90.
Vous sortez diplômé de l'ISEN, l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique. Vous devenez ingénieur en informatique. Et déjà, sur votre temps libre, vous avez un goût particulier pour regarder des films de genre. Je crois que c'est la notion de peur qui vous fascine.
Ça m'a traumatisé. J'ai grandi, j'ai passé mon adolescence à regarder des films d'horreur. J'ai continué à regarder d'ailleurs pendant ma période étudiante. Et j'ai un souvenir, je pense que ça va traumatiser quelques-uns, enfin que ça a dû en traumatiser, c'est L'Exorciste.
Ah ouais.
Et ça m'avait marqué, j'en faisais des cauchemars hein, vraiment, et ça m'a accompagné, tous ces cauchemars m'ont accompagné pendant très très longtemps.
Et malgré les cauchemars, vous continuez
à regarder des films de genre.
Ah oui, parce qu'il y a toujours cet attrait répulsion en fait, envers ce genre, quel thriller, les gens qui lisent ce livre ont peur de lire ce genre, et pourtant ils sont attirés, donc il y a quelque chose d'assez paradoxal.
Moi je les joue juste.
Tout à l'heure, vous évoquiez Hitchcock pour les caméos et la présence à l'image, mais la structure narrative d'Hitchcock est une référence pour vous ?
Oui, bien sûr, c'est un modèle du genre, puisque c'est quand même le maître du suspense, hein, c'est lui qui a...
Vraiment, c'est un titre ? Ouais.
Non, il y a vraiment il a révolutionné un peu, il a apporté ce frisson au cinéma avec ses rebondissements. Les héros d'ordinaire vivaient jusqu'à la fin du film Psychose, il la tue, la belle blonde, au bout d'un quart d'heure, c'est le choc absolu. Il y a des scènes très fortes.
Mais c'est pas l'héroïne du film.
Non, croit que c'est l'héroïne du film. On pense que c'est
elle.
Et les gens sortaient de la salle parce qu'ils n'avaient jamais vu ça au cinéma. Donc il a poussé les curseurs assez loin et c'est vrai que c'est... Moi, ça m'a beaucoup inspiré pour mes histoires. Oui.
En 2000-2001, Odile, vous écoutiez... Et on a échappé à la version d'Emma Beaujean. I will always love you.
Je peux vous la faire.
Non,
je
justement
fais passer un chapeau à la fin.
franchement, moi, je préfère la version d'Emma.
Merci, mon ami. Je ne la connais pas, la version d'Emma.
Même Emma ne la connaît pas.
On vous retrouve au cinéma, Odile, dans Le doux amour des hommes de Jean-Paul Sivérac. Racontez-nous le casting.
Oh, mais vous avez super bien bossé. Oh là là. Non,
ça, c'est le marque de fabrique ici. C'est un boss à mort.
Oui, casting particulier. Bah, déjà, c'est mon premier film. Et puis, j'arrive. Et puis, on m'avait pas donné de scénar ni de scène à apprendre. Et on me tend juste une séquence à lire. Et avec le directeur de casting qui me donne la réplique. Et puis, il commence juste par me dire je vous trouve très jolie. Et là, je le regarde, mais genre la tétanie, je suis « Oh, c'est pas vrai !» Qu'est-ce que je réponds à ça?
C'est gênant.
Bah, c'est hyper gênant, parce qu'on sait pas trop...
C'est flatteur et c'est gênant.
C'est flatteur et c'est gênant, parce qu'on sait pas ce que ça veut dire, c'est hyper intrusif. Ça fait partie de mes premiers castings, je connais pas encore le milieu. Et je le regarde, après, je sais pas, mes 10 secondes d'arrêt sur image, et je lui fais « Merci. » Et là, il me dit « Non, mais c'est la première réplique de la séquence.
» Oh, le malin, voilà. C'est génial.
Oui, mais vous avez été engagé.
Bah, du coup, ouais.
C'est génial.
Ah, c'est bon moment.
Mais je vois la double gêne. Franck Tillier, vous écoutiez Mano.
Ça devrait être interdit.
Pourquoi? Tu fais des suilasses avec les bras. Le problème, c'est que tu vas jamais dans le bon sens. Évidemment, que tous les autres potes à côté de toi, tu dis, je suis à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique, Mano?
Bah, c'est un peu comme Odile, c'est le voyage. Chaque fois que je l'écoute, je me retrouve un peu à la Bretagne, les Landes,
on n'est plus à Tahiti, ni en Quintuy, là.
Non, c'est un peu différent. Puis c'est un peu lancinante, effectivement. Vous allez en rêver, cette nuit.
Et c'est le début de l'écriture.
C'est ça, en parallèle de votre métier, en fait, vous commencez à écrire sur votre temps libre, le soir, dès que vous avez un moment. J'ai lu même que vous le faisiez à l'arrière de la voiture, en covoiturage.
Ah ouais, c'était incroyable. Dès que j'avais un moment de libre, parce que c'est dévorant comme passion, l'écriture. Et à l'époque, je travaillais à une heure de voiture de chez moi. On covoiturait, on était à cinq serrés comme des sardines dans la voiture. Et quand j'étais à l'arrière, je me mettais au milieu des deux collègues et j'écrivais avec le portable sur les genoux. Et d'accord. Je racontais qu'effectivement, l'ordinateur me brûlait
les cuisses.
Les cuisses, quoi. Et ça, c'est vrai, j'écrivais dès que j'avais un.
Et vous lisiez beaucoup ou pas avant? Parce qu'on a parlé des films de genre, de la peur, l'angoisse. Est-ce que vous êtes passé aussi par un moment de lecture pour voir un peu comment on construit un polar?
Bah oui, parce que c'est ça. Alors, je lisais, effectivement, dans cette période d'adolescence, je lisais beaucoup, mais quand vous mettez face à l'écriture, vous dites, j'ai beaucoup lu, mais comment ça marche en fait? Comment on démarre un livre? C'est quoi la première phrase? Comment on introduit un caractère? Donc vous prenez des livres et vous regardez comment on démarre une scène, comment on expose une situation.
Oui. Est-ce que vous écrivez la fin de vos romans, parce que vous avez fait une trentaine de romans quand même, est-ce que vous écrivez la fin, vous savez comment ça finit avant de commencer?
Oui, alors j'essaye de préparer au maximum, hein. J'étais ingénieur, donc voilà.
J'ai gardé cette
structure. Okay. Alors après, la fin précise, je la connais pas, parce que c'est trop loin avant de commencer à écrire, vous imaginez d'avoir toute l'histoire en tête, mais en tout cas, en général, il y a un crime au début du roman, hein, c'est un roman policier. Je sais qui a commis le crime, mais pourquoi, pour quelle raison il l'a fait. En fait, c'est ça un peu la fin, c'est-à-dire d'expliquer au lecteur quelles ont été les motivations du criminel et surtout qui est le criminel. C'est
et au fur et à mesure de l'écriture, ça peut apporter des éléments nouveaux.
Oui, mais ça c'est en permanence, tous les auteurs vous le diront, c'est-à-dire que vous prévoyez quelque chose, comme les navigateurs prévoient de faire le vent des globes, et hop, on pense aller tout droit, puis d'un seul coup, il y a les vents qui vous poussent, vous allez casser votre mât, il va y avoir une tempête. Et l'écriture, c'est ça en permanence, et je dirais, heureusement, c'est ce qui apporte vraiment le sel et parfois les meilleures idées au moment de l'écriture.
À quel moment vous avez assumé le nom d'auteur, d'écrivain? À quel moment vous avez dit, c'est bon, je suis auteur, je suis écrivain? Est-ce que ça se compte en nombre d'exemplaires vendus ou en nombre de livres publiés?
Alors, je dois vous dire, au début, quand j'écrivais à l'arrière de la voiture, personne ne le savait. C'est-à-dire, j'allais au boulot faire mon métier d'informaticien, et puis je rentrais chez moi, et puis les premiers livres sont sortis, mais c'était tellement confidentiel que personne n'était au courant. Puis il y a un livre qui s'appelle La Chambre des Morts qui a marché. Un jour, je vais au boulot, on me montre l'article, on me dit, tiens, il y a un article dans La Voix du Nord, j'habite le Nord, on me dit, c'est toi sur ce journal? Je dis, ouais, c'est moi, je suis écrivain. Et donc c'est à partir de ce moment-là où ça s'est su.
C'est le premier jour où vous avez dit, je suis écrivain.
Mais je me considérais pas comme écrivain, parce que c'est quand les gens achètent, aujourd'hui, les gens, par rapport au nom, quoi.
Mais c'est la question, on peut la poser aussi à Odie Vimin. Après le succès de Podium, vous avez cru que c'était fait, et pourtant, il y a eu une mini traversée du désert ensuite.
Ouais, assez longue. Hein,
ouais. Non mais donc,
c'est jamais
la question
fait.
De légitimité, de savoir si on est reconnu à la place à laquelle.
Moi, je me la pose toujours.
Mais encore aujourd'hui.
Ouais.
Waouh. Ok.
Ouais, j'ai du taf. J'ai un bon psy. On va sortir les mots éculés du syndrome de l'imposteur ou je sais pas quoi. Bien évidemment, je me sens actrice. Mais
on l'a tous.
Ouais, non mais donc voilà, on essaye de vivre avec. Bien évidemment, je suis actrice, c'est tellement friable, enfin c'est tellement
fragile.
Oui, et puis ésotérique quelque part aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, au début de ma carrière, j'ai fait Podium, qui était un gros film.
Énorme succès.
Ouais. Et puis du coup, c'est vrai que très vite, jeune, quand on n'a pas l'expérience, quand on sait pas le chemin que ça représente, etc., on s'est cru arriver, quoi. Bon.
En tout cas, c'est le cas en ce moment du succès rencontré par Il était deux fois. C'est sur France 2 ce soir. Hugo Botman nous a rejoint. Bonjour Hugo, émission, psychiatre et chercheur. On parle de l'amnésie traumatique. Ça peut arriver, ce cas de figure, d'avoir un traumatisme au point où 12 années de la vie sont effacées totalement.
Alors c'est un trouble de la mémoire qui est très mystérieux, mais qui existe. Et ce qui est particulier, c'est qu'on ne retrouve pas de lésion du cerveau. Donc ça, c'est quand même assez formidable. C'est-à-dire que le patient perd complètement la mémoire. Alors souvent, c'est la mémoire qu'on dit autobiographique, c'est-à-dire qui est liée à sa vie personnelle. Et on ne retrouve pas d'effet sur le cerveau après. C'est un patient, par exemple, qui va continuer à avoir une mémoire procédurale. Donc par exemple, s'il était pilote d'hélicoptère, on le met face à un hélicoptère, il saura continuera à le piloter. S'il était physicien qui faisait de la physique quantique, on lui met des équations, il continuera à les comprendre.
S'il est musicien, il saura jouer.
Il saura jouer du violon.
Okay. Dans la série, elle connaît le numéro de badge de son ancienne patronne. Elle l'a pas oublié, ça, par exemple.
Voilà, donc ça peut être tout à fait sélectif. Mais par contre, il y a des pans entiers de sa mémoire qui disparaissent. Alors, qu'est-ce qui se passe son identité.
Dans le cerveau, concrètement, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas eu de choc, si c'est que l'émotion qui a déconnecté des neurones?
Alors, il y a quelques études de neurosciences qui ont montré que c'était plutôt ce qu'on appelle une inhibition descendante. C'est-à-dire qu'on a une sorte de masquage par le cerveau du chemin qui va permettre d'accéder aux souvenirs. C'est-à-dire que les souvenirs existent toujours, ils sont stockés dans le cerveau, mais en fait, la manière d'accéder à ces souvenirs, eh bien, d'un seul coup, ça devient masqué. Et ça peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être dû à un stress intense, ça peut être dû à un traumatisme. Et puis, parfois, c'est pas expliqué. Parfois, on retrouve aucune cause extérieure qui vient expliquer, finalement, cette amnésie dissociative.
En tout cas, c'est connu, c'est reconnu par le corps médical, par les chercheurs. Pourquoi la justice met du temps à comprendre et à entendre que après un viol, après un inceste, après un traumatisme, on mette des années à le dire et à le raconter. Et il y a encore des gens qui disent « Ah mais oui, mais il y a prescription, vous avez attendu trop longtemps, vous ne l'avez pas dit. » Et on ne croit pas, on n'entend pas la possibilité que cette amnésie...
Bah maintenant moins quand même.
La prescription temps, malheureusement existe toujours dans la loi.
Donc il y a une évolution quand même des mentalités, et notamment il y a une utilisation de plus en plus importante de ce concept au sein des procès. Mais c'est quand même quelque chose qui est relativement rare, avec des cas aussi flagrants, par exemple, que ceux qui sont présentés dans la série. Il y a quelques cas célèbres, hein. Par exemple, il y a le cas d'une journaliste qui s'appelait Jodie Roberts, une journaliste américaine, qui avait 26 ans et qui avait disparu totalement à Washington. Sa famille pensait qu'elle avait été enlevée, qu'elle avait été assassinée. Et en fait, on l'a retrouvée 12 ans plus tard, cette fois-ci vivant en Alaska. Elle avait 4 enfants, elle avait complètement changé sa vie. Elle ne se souvenait absolument pas de son ancienne identité. Il y a un autre cas qui est très célèbre, qui s'appelle, c'était le cas de Naomi Jacobs, une Britannique qui cette fois-ci avait 32 ans. Elle était mère d'un petit garçon et un jour elle se réveille, elle descend dans son salon et elle voit un enfant qui l'appelle maman. Elle est incapable de comprendre, de savoir qui est cet enfant. Et là, l'amnésie a duré 8 semaines. Et en fait, cette femme, c'est très intéressant, elle pensait qu'elle avait 15 ans à ce moment-là. Donc elle avait une amnésie dissociative avec un retour à une période plus ancestrale, plus primitive dans son identité.
Elles ont toutes les deux subi un traumatisme quelconque ?
Eh bien, justement, dans ces deux cas qui sont des cas très mystérieux, il n'y avait pas de traumatisme retrouvé. Il y avait des facteurs de stress qui étaient des facteurs de stress de la vie quotidienne, mais en fait, il n'y avait pas de traumatisme.
Wow. Les études sur le cerveau.
Vous avez gâché l'ambiance.
C'est passionnant. C'est sans limite, Hugo, ce que l'on apprend sur le cerveau encore aujourd'hui.
Bah, c'est très compliqué en fait d'avoir accès vraiment à une compréhension de ces pathologies-là, puisqu'en fait il y a très peu de cas, et donc on a assez peu d'études bien faites encore qui permettent de comprendre ces mécanismes.
C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme vous. C'est pour ça. Merci Hugo Botman, qui co-signe avec Lucie Joly la dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir. C'est aux éditions du Rocher. Merci mille fois d'être venu à ce micro. Voici Emma Beaujean.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au courrier. C'est quoi le truc le plus agréable dans la vie quand on a la chance d'avoir un nid douillet ? Eh ben, c'est le moment où après une grosse journée de travail et de problèmes, tu rentres enfin chez toi. Et le principe du courrier, c'est de gâcher ce moment. Cool, je vais enfin pouvoir me poser dans mon canap. Ah, mardi, les huissiers viennent récupérer le canap. Ça n'a jamais été mon truc, le courrier. Je vous rappelle qu'à 8 ans, j'ai écrit une lettre à mon voisin pour lui dire que j'étais amoureuse de lui. Il m'a écrit une lettre en retour pour me dire que lui, il était amoureux d'une autre fille. Morale de l'histoire, c'est pas parce que c'est écrit sur une feuille d'idole que ça ne fait pas extrêmement mal au cul. Après, c'est mignon le courrier quand t'es enfant, c'est magique, c'est la lettre au Père Noël, c'est des cartes postales, c'est des enveloppes colorées et puis tu grandis. Et là, le courrier devient une menace. Quand t'es adulte, le courrier c'est des factures, des relances, des « nous avons tenté de vous joindre ». Une lettre de ta banque commence toujours... C'est juste un principe de base dans ce métier, on vole des blagues. Et puis tu grandis donc, et il faut savoir que par exemple une lettre de ta banque qui commence toujours par madame, monsieur et qui finit par cordialement, eh bien entre les deux, en général, ils t'expliquent qu'en gros, tu as un compte en banque chez eux et qu'il n'y a pas d'argent dessus. Et d'ailleurs, je fais cette chronique sur les lettres et le courrier, mais à la base, je voulais faire cette chronique sur les moyens de communication actuels et sur les messages. Malheureusement, j'en ai parlé hier soir à Daniel Morin, il avait compris massage. Il est donc venu en peignoir, il se prenait pour Bruce Willis, c'était extrêmement gênant. Et cette chronique sur le courrier ne serait pas une vraie chronique sur du courrier sans du courrier. Alors ça tombe bien, puisque j'ai reçu un petit mot d'un auditeur, un certain
Saint-Jérémy. Alors, je ne trahis rien en expliquant à nos auditeurs que généralement, les gens qui nous écrivent à la station sont pas les plus... c'est des gens qui ont beaucoup de temps libre. Alors, Jérémy nous dit « Chère bande originale, je ne vous écoute pas, je vous habite. Vous êtes devenue une fonction vitale, quelque part entre le rythme cardiaque et le besoin irrépressible de lever les yeux au ciel, de sortir en écoutant vos voix douces et suaves. Je ris trop fort, je pense trop vite. Je dis, ils en ont parlé, comme d'autres disent. J'ai lu quelque part, vous avez dérangé mon équilibre. Et franchement, merci. Tu veux me baiser ou quoi ?» Pardon. Non, c'est vrai que la lettre de Jérémy, c'est pas celle qui m'a le plus touchée ces derniers mois. Je dois vous dire que au début d'année, là, il y a quelques semaines, j'ai relu une lettre qui date du 1er janvier 2010. Alors, attention, restez bien assis. En 2010, j'avais 9 ans. Et c'est une lettre pour la moi du futur. Ça commence par « Chère Emma, j'espère que tu as le droit d'avoir des cheveux rouges. » Je sais pas, en tout cas maintenant on a le droit d'avoir du goût. « Emma, j'espère qu'on mange ce qu'on veut. » Déjà des troubles du comportement alimentaire. « Et j'espère surtout qu'on est devenu une star. » Bon, je vais peut-être la réouvrir à 30 ans, sinon ça risque de me foutre le caf. Mais en gros, pour moi le courrier c'est important parce que ça laisse une trace active du passé. Alors non Emma, on n'a pas les cheveux roses, mais on a mieux que ça. On a une raison beaucoup plus fun que l'école pour se lever chaque matin. Et c'est à la Emma de 9 ans que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir
écouté. Merci Emma Beaujean.
Emma Beaujean sur scène à Paris, c'est au Théâtre Le Pic. Tous les mardis à 19h, elle sera à Bulle le 25 janvier.
C'est intéressant l'exercice dont parle Emma, je crois que c'est assez fréquent, les enfants qui s'écrivent une lettre que tu ne l'ouvriras que lorsque tu auras tel ou tel âge. C'est un point de départ, Franck, ce genre de choses d'un roman ?
Alors, je sais pas comment vous avez fait, vous êtes devin, parce que mon prochain roman démarre un peu sur celui qui sortira en mai. C'est, vous savez, il y a une époque, on enterrait ce qu'on appelait des boîtes capsules temporelles.
Ouais.
En CE1, en CM2, les enfants mettaient un petit objet. On va venir le déterrer dans 30 ans.
Avec la classe.
C'est le point de départ de votre prochain roman.
30 ans après, elle y retourne, elle va trouver un truc très bizarre dans la boîte.
Ouais, je sais.
C'est tout. Sur la date,
les aviers du pont Ligonnès, elle fait ça avec sa famille.
Oh, Tanguy, tu vas nous parler de quoi dans la prochaine demi-heure ?
On a gagné les doigts dans le nez.
Et oui, on est les meilleurs, les plus écoutés. Merci. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La bande originale avec Leïla Cadeau, Pédagie, Lisa Delmoitier, Emma Beaujean, Tom Valdetti, Oldelab, Tanguy Pasturo, Daniel Morin et nos invités Franck Tilliez et Odile Lima.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Avec Odile Vimine, comme ça je rajoute des syllabes systématiquement à tous les noms. Franck Tillier, Odile Vimine, pour cette réussite déjà en preview. Tout le monde a bingé. En tout cas, 7 millions de personnes ont vu, minimum 7 millions, puisque ça continue. Évidemment, les chiffres, on les a eus que de la semaine dernière.
Ben non, là, les gens nous écoutent, ils ne regardent pas.
Il était deux fois.
Spatio-temporel.
On peut même rajouter donc les 3 millions de ouais. gens qui l'ont vu en diffusion directe, entre guillemets, c'est ça, ouais. La semaine dernière. Ça continuera ce soir sur France 2. L'histoire de cette gendarme qui a un traumatisme, qui a un trou de mémoire. Elle ne sait pas pendant 12 ans ce qui s'est passé, alors qu'elle a, en effet, elle n'était pas dans un coma. Elle a vécu, elle a eu sa vie, elle a eu ses aventures, elle a mené son enquête, mais elle a tout oublié. Donc elle est obligée de se reconstruire, de refaire ce puzzle, d'aller chercher la moindre pièce de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Et comme un puzzle, à un moment, il y a des pièces qui collent plus, il y a des choses quand même qui ne vont plus. Et qui peut-être ne l'avaient pas choqué d'ailleurs dans sa précédente vie, entre guillemets, mais là, avec le recul et peut-être la réflexion et le travail du temps, ça va pas, ça colle pas. Donc elle continue de gratter, malgré l'enterrement de son enfant, malgré la lettre qui confirme le suicide, malgré l'arrêt de l'enquête et tous ses potes, et même le propre papa de l'enfant qui dit « mais c'est fini, tout est plié, on n'en parle même plus ». Elle ne lâche rien, et elle y va. Et c'est le combat de cette femme, c'est ça qui est formidable.
Oui, bah c'est la force du lien qui unit un parent à son enfant. Et moi, si j'écris aussi ces romans-là, c'est parce que, sur ces sujets-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me terrorise, c'est un jour d'aller chercher mes propres enfants et de...
Évidemment, dire, mais personne ne peut imaginer ça.
Où il est.
Et la langue française n'a même pas de mots pour qualifier le statut d'un père ou d'une mère qui perd son enfant. On est orphelin si quand on perd ses parents, on est veuve ou veuf quand on perd son conjoint. Mais il n'y a pas de nom pour qualifier la perte d'un enfant, parce que c'est pas imaginable.
C'est vrai, donc on est dans une espèce de vide comme ça, et là, en plus, dans la série, le personnage est gendarme, c'est-à-dire qu'il a cette double casquette, et la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir enquêter sur la propre disparition de son enfant, parce que normalement, on écarte. Si quelqu'un est impliqué dans une enquête, on dit, on t'écarte, t'auras pas l'esprit assez lucide, et là,
Odile Vilma, votre personnage ne respecte pas totalement non plus la procédure.
Légèrement.
Vous pensez que ça joue, ça, à l'adhésion?
Oui, je pense. Enfin, je pense qu'il y a une ténacité. Moi, c'était assez étonnant parce que on la voulait vraiment moche mais belle. J'ai tout fait.
L'uniforme n'aide pas.
Il y a l'uniforme.
Glamour, hein.
Après, même dans les vêtements qu'on a choisis, le fait de rajouter du poids, le fait d'en prendre aussi, de s'habiller en chaussures de marche.
Vous avez vraiment pris du poids pour le rôle ?
J'ai fini par en prendre un peu, ouais, pas les 15 voulus, mais J'ai terminé le tournage plus grosse.
On n'était pas totalement raccord avec la première.
Non, c'était avant, on n'est pas tout raccord. Ah. Mais ça s'appelle l'empathie. Mais je pense qu'elle est. Son irrévérence fait que ça la rend touchante parce que quelque part elle va toucher un interdit, elle se l'autorise. Et puis moi, ce que je trouvais très touchant chez elle, c'est qu'elle fait rien. Ni pour être belle, ni pour être gentille, ni enfin en fait de tous les standards sociétaux.
Mais pardon, parce que c'est une maman qui a perdu son enfant, qui est persuadée qu'il y a eu un crime, qui est persuadée de vivre une injustice, une incompréhension de toute la société, y compris de sa propre famille. Elle n'est pas là en train de se dire comment je me maquille et comment je m'habille, c'est évident.
Non, mais clairement. Et en même temps, moi, je me suis trouvée super belle en me regardant. Je la trouvais super belle. Je suis tombée très amoureuse de mon personnage. On m'a interdit de le dire comme ça. Mais...
Enfin, c'est le psy qui vous suit, qui vous aide, surtout ne parle pas comme ça.
J'ai adoré ce personnage.
Comment on se met dans cet état d'esprit ? Est-ce que c'est en écoutant de la musique ? Est-ce que c'est en dormant peu, en disant je vais avoir volontairement un acteur studio, je vais avoir un visage très fatigué demain pour être vraiment à fleur de peau ?
C'est pas c'est tout.
Oui, non, mais. J'ai l'impression que vous n'étiez pas maquillée, ouais.
Non, bah pas vraiment, non. Mon inconscient travaille bien pour moi. Ce qui m'est arrivé régulièrement, je me fais souvent avoir en fait par mes personnages. Moi, je travaille beaucoup en amont. J'ai eu besoin de parler avec Franck, de savoir pourquoi, comment. Il m'a envoyé les passages que j'avais besoin de lire. Et puis en même temps, c'était l'occasion d'en profiter, donc je me suis fait plaisir. Mais j'avais besoin de voir comment il l'avait construit et pour aller chercher moi de l'ADN quoi. Et
reconstruire la Bible du personnage.
Oui, reconstruire la Bible, sentir les. Moi, j'aime bien travailler sur l'énergie, tout ça. Donc je travaille le texte, mais je travaille surtout beaucoup en amont. Je vais faire les costumes avec les costumiers, je fais les shoppings avec eux. J'ai vraiment besoin de
construire. Vous avez beaucoup de temps libre, hein, quand même.
Non, je suis passionnée par mon travail. Il y a toute cette préparation en amont. Et c'est comme si ça faisait une espèce d'infusion, en fait. J'aime bien laisser infuser ça. Après, j'arrive sur le plateau, je me mets en espèce de dispo. Donc, il se trouve que sans totalement le vouloir, je deviens l'autre, quoi.
Il était deux fois, on peut juste faire une explication de texte, au-delà de revivre une deuxième fois, avoir une deuxième vie, quelle est la démarche d'appeler ça « Il était deux fois » qui est un pur titre en plus.
Oui, ça... Je trouve que c'est toujours difficile de trouver un titre. Alors, il y a « Il était une fois » qui est spécifique
au
livre, voilà, les contes. Là, c'est simplement parce qu'en fait, elle va revivre cette enquête qu'elle a déjà menée en fait, pendant ses 12 ans, mais en repartant de zéro. Donc, en fait, elle recommence son histoire. Elle se redécouvre elle-même. Elle va redécouvrir toute la communauté autour d'elle. Et puis,
c'est pas un jour sans fin non plus, mais il y a un côté répétitif.
On n'en est pas loin. La notion temporelle est extrêmement importante. Et c'est vrai, Odile, on avait discuté un peu. Elle m'avait demandé qu'est-ce que ça fait d'être amnésique. Comment interpréter un personnage qui est amnésique. Et c'est extrêmement compliqué, hein, parce qu'il y a cette peur de ce qui a pu arriver dans cette période d'oubli, et ça c'est vrai qu'on le sent bien quand on la voit jouer, c'est bien qu'apparaît le rôle.
Odile Vimin donc incarne et porte cette série aux côtés d'Hubert Delattre, de Nicole Calfon, de Rémi de Villa, Béatrice Facker, Lannick Gauthier, Tri, Tom Novembre, François-Éric Gendron, Amel Chabi, Soren Prévost, Cathy Pakia Nathan, Yann Tual, Sarah Cheyenne, Faustine Guyot et Vincent Hennen, entre autres, encore une fois. Et il n'y a pas de petits rôles, et c'est ça qui est extrêmement fort, même s'il y a comme ça des apparitions furtives, on peut toujours se demander s'il n'y a pas finalement une petite ou une très bonne raison pour que telle ou telle personne arrive. Et puis il y a cet auteur, cette mise en abîme, ce romancier qui s'appuie sur il s'appuie sur rien, il s'appuie sur son stylo pour écrire un roman. Ouah, j'ai failli le dire. Allez, voici Tanguy, parce que...
Oui, on est les meilleurs, la meilleure radio. Les autres, elles sont nulles. Oui. Qu'elles aillent se faire mettre. De manière synthétique, tout ce qui s'est dit à l'antenne de France Inter à la suite de la publication des sondages radio, puisque les médias, c'est un qui a la plus grosse permanent. J'ai rien contre, ça rappelle les toilettes à l'école en CM1, mais quand même, c'est humiliant pour RTL. Alors, j'ai lu les sondages précis. Il apparaît qu'à 12h10, pile, 12h15 le plus souvent, la courbe s'emballe. Voilà. Mais je dis ça, mais j'ai pas accès aux chiffres. Il faut connaître des gens haut placés dans la boîte pour les avoir, et moi je connais Oldelaf. Et ce qui est marrant avec les sondages, c'est que c'est la coupe du monde de la com. Parce que même les radios qui se prennent une grosse tôle, hein, la cabane de jardin, quoi, arrivent à trouver un angle. Par exemple, RTL, je les chambrais parce que bon, ils ont baissé en nombre d'auditeurs. Ils ne disent pas on s'est viandé. Ils écrivent première radio privé de France. Ce qui est vrai, j'adore cette capacité à trouver le détail positif dans un océan de désespoir. C'est comme si nous, on disait, oui, je suis acariâtre, détestable, j'ai pas un pote tellement je suis con, mais pour ma mère, je suis numéro un des fils de France. RMC, ça baisse aussi, donc ils ont écrit 3e radio de France en PDA. Ce sont des parts d'audience, un truc technique ennuyeux. RTL2, une radio qui diffuse Zazie, puis Phil Collins, Hein, le jour où Zazie et Phil Collins font un duo, les animateurs vont prendre feu tellement leur désir sera au max. Eux se disent leaders des radios jeunes adultes, ok. Julien Courbet, face à nous sur RTL, la com écrit leader en PDA. Ça veut dire que tu es deuxième. Hein, quand tu ajoutes quelque chose derrière le mot leader, c'est pas bon signe. Vladimir Poutine, jamais. Il ne dit je suis leader sur les hommes de plus de 55 ans qui habitent l'Est de Moscou. Non, il dit tu baisses les yeux, chien. Le super Moscato Show sur RMC, alors ils font même plus semblant. Ils ont titré premier podcast de France. Ça veut juste dire qu'à la radio normale, personne n'écoute. France Info, moins 400 000 auditeurs. Bon, du coup, bon, ils n'ont rien dit. Hein. Le communiqué de presse, c'est une page blanche avec marqué SOS. Avec le mal que se donne Trump pour créer de l'actu, je trouve ce résultat lamentable et presque insultant. Ah, Fun Radio, la FM des DJ. Grosse baisse. Parce que ces cons-là ont pris Hanouna. Bon, ok, pourquoi pas. Mais il est venu avec son équipe de boomers. Je veux dire, Fabien Lecoeuvre sur Fun, à moins que tu partes sur des remixes de Mike Brandt, c'est pas l'idée du siècle. Donc, ça ne marche pas. Mais eux ont communiqué sur la durée d'écoute. Je vous lis le visuel. Record, vous n'avez jamais écouter Fun Radio aussi longtemps. Forcément, les auditeurs sont passés de 21 à 104 ans. La moitié des nouveaux auditeurs sont morts avant d'avoir réussi à atteindre le poste à Galène. Et ils ont juste eu le temps de dire « Zut, je vais rater Isabelle Morini-Busk sur Fun. C'est pas bête !» Et clac, c'était fini. Énergie, ma radio quand j'étais ado, j'adorais, baisse aussi beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas grave parce qu'ils ont écrit Énergie, première radio de France sur les moins de 55 ans. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Hein, tu émets dans la Sarthe, tu peux écrire numéro 1 sur les mecs qui s'appellent Eric et qui mangent des rillettes. Que ce soit toi, que ce soit ta radio et que tu manges des rillettes, ça passe. Enfin, parce qu'il y a des hausses, à part France Inter, Europe 1 monte. On parle, les médias parlent d'effet Pascal Pro. C'est-à-dire que dès que vous le mettez quelque part, ça monte. Demain, ils mixent sur Fun avec Elisabeth Lévy. La session live DJ des Patriotes, ça fait plus 200%. Skyrock monte également, et aussi Radio Nova, qui a mis à l'antenne la grille de France Inter il y a 2 ans et demi. Ah, c'est comme TV Mélodie, mais avec des gens de gauche. Enfin, Chéri FM augmente, c'est surprenant, numéro 1 sur les femmes entre 34 et 35 ans et demi, qui ont une frange et qui aiment bien Chimène Badi. Voilà, donc, en gros, tout le monde a gagné, sauf la radio en général, le média radio, qui en un an a quand même perdu 700 000 auditeurs. Je suis pas à la tête d'une radio, je ferai ça la saison prochaine, mais si je l'étais, franchement, c'est ça qui me ferait m'interroger. Et oui, les amis, nous déclinons. Physiquement, déjà, je suis là depuis 9 ans, je vois le coup de pelle général qu'on s'est pris dans la gueule. Tom Baldetti, on l'a connu bébé, et là, il ressemble déjà à Gilles Verdès, tu vois. Il va finir sur Fun, quoi, la radio des EHPAD. Mais notre média, chérie, pourtant décline. Et pourtant, France Inter suscite des fantasmes délirants. J'ai lu un article du Parisien qui décrit, je cite, « un climat de terreur à Radio France et France Télé ».
Zrinagui est terrorisé. C'est que le matin, il faut le sortir du dessous de son bureau à la Baramine. On lui dit, si tu ne sors pas, on fait venir Marine Le Pen. Et du coup, il reste caché. Bon.
Ben oui.
Apparemment, les salariés de France Inter, notamment, alors, d'après l'article, ne vont plus au restaurant à cause de l'affaire Le Grand Cohen, parce qu'ils ont peur d'être écoutés. Oh, vous savez qu'on n'ose même plus parler au resto de Rachida Dati. C'est comme Voldemort dans Harry Potter. On l'appelle celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Et hier, je suis allé aux Ondes, la brasserie en face de Radio France, le repère de Daniel. D'ailleurs, si vous voulez le pécho, il y est tous les matins. Hein, Daniel est d'ailleurs numéro 1 sur l'auditrice de centre-gauche, lettré et coquine. Et ben, même moi, qui suis pas parano du tout, parce que je sais que le Mossad et les Illuminati sont dans le café d'à côté, même moi, j'avais peur d'être écouté. Un salarié témoigne, je cite, au restaurant, il dit « Je choisis une table isolée où on ne pourra pas m'entendre. Dans le coin, à côté des WC, il y a tous les journalistes d'Inter. Ils bouffent leur limande dans des effluves de désodorisant à la vanille. Et à un moment, il y a un mec qui dit « On laisse pas Florence Paracoulos dans un coin. » Pire, d'après l'article, des salariés de Radio France craignent de se faire pirater leur téléphone. Quand un socialiste les appelle, ils répondent « C'est pas moi ». Et ils ont même peur d'espions qui seraient envoyés par des médias de droite. Oh. C'est-à-dire que si le stagiaire de 3e, c'est un monsieur en costume cravate, qui se met à dire « Il y en a ras-le-cul des woke avec l'accent québécois », ce n'est pas un stagiaire de 3e, ni même Diane Tell en pleine transition de genre. C'est Mathieu Bock-Côté infiltré au sein de France Inter avec un enregistreur caché dans sa coupe de cheveux. Donc voilà, donc pour les jeunes qui auraient envie de faire de la radio, mon conseil est... Non, hein, parce que dans 10 ans, c'est fini, on va plus au resto, et en plus, on se finit par se méfier des élèves de 3e. VDM, comme ne disent plus que les vieux, c'est-à-dire les auditeurs de Fun Radio.
Merci, Tanguy Passion.
Tanguy sur scène à Nîmes, ce sera le 6 mars prochain.
Et dans cette bande originale qui est leader en part d'audience, en audience cumulée, en quart d'heure moyen, que se passe-t-il, Leïla, dans la culture?
On cherche un auteur américain. Deux de ses adaptations viennent d'être stoppées net. De qui parle-t-on? Un grand maître.
Harlan Coben?
Non, pas Harlan Coben.
Stephen King?
Stephen King, bravo. On parle de Stephen King, je me suis dit que Franck, ça allait vous faire plaisir. Stephen King, deux titres de Stephen King, Talisman et Les Révélations de Becca Paulson devaient être adaptés. Talisman, développé par les créateurs de Stranger Things, ça devait être pour Netflix. Et en fait, ils ont abandonné. Vraisemblablement, les frères de Duffer, ces créateurs de Stranger Things, ont changé de crèmerie, ils migrent, ils vont aller, ils ont signé un accord avec la Paramount. Bilan, ils abandonneraient l'adaptation de Talisman. J'imagine que quand on a un grand fan de Stephen King comme vous. Vous êtes un grand fan, c'est bien ça?
Oui, oui, oui. Bah, j'ai passé mon adolescence avec ses romans, hein, toujours dans ce domaine de la peur. Et puis les adaptations, oui, il y en a quand même pas mal. Hein. Il est, systématiquement, ses romans sont adaptés. Donc là, c'est vrai que ça me surprend. Je n'étais pas au courant. Et bon, c'est un peu triste.
Oui, alors vraisemblablement, alors ça peut être repris par d'autres productions. Mais pour l'instant, c'est abandonné.
C'est une histoire de contrat.
C'est une histoire de contrat, mais c'est aussi une histoire de difficulté. C'est-à-dire que s'emparer d'un univers comme celui de Stephen King, c'est pas si simple, même si ça a donné lieu, en effet, à des adaptations très réussie.
Il y en a aussi des très mauvaises.
Hein. Ah, c'est vrai?
Oui, bah, il y a des vieux films, les vieilles adaptations. Le premier, le Ça, le tout premier original,
oui,
qui était pas terrible. Et puis tout un tas de films. Mais après, il y en a des très bons.
Il y a une série en ce moment, Mister Mercedes.
Ah oui, très bon aussi. Ouais,
Et des projets d'adaptation en série aussi de Ça, de déclinaison. Je ne sais pas combien. Ouais. Ça fera l'objet sans doute d'une nouveauté Netflix ou d'une autre plateforme.
Une autre question?
Non, pas d'une autre question, justement.
Sur Mercedes?
Ah, sur?
Non, sur ça, la série.
Ah non, non, pas
série.
Sur ça.
Non, ouais, d'accord. Non,
tu voulais répondre à une question sur ça?
Pas du tout.
Ah, vous êtes à l'antenne, hein, tout
le monde. Oui, c'est ça. Oui, c'est
pardon,
Daniel.
Je sais pas.
D'accord, ok. Non, Franck, je voulais en venir justement à dans les découvertes, ce que vous lisez. Je ne parle pas de ce que vous écrivez, vous produisez, dans ce que vous lisez. Ce qui font peur, ou vous estimez qu'il y a un maître du genre, Stephen King occupe une place importante, mais
et qui peuvent vous influencer dans le travail en plus. Ouais. Ouais.
Ah bah il y a pas mal d'auteurs américains, Denis Lehane, Thomas Harris qui est à l'origine du Silence des agneaux, et puis il y a beaucoup d'auteurs français. Alors il y a une vague française qui dure depuis quelques années, avec des auteurs comme Bernard Minier, Maxime Chattam, Michel Bussy qui est un peu le roi du twist, du rebondissement. Et puis
parce qu'il y a plusieurs genres là-dedans, c'est-à-dire que il y a aussi des auteurs français ou américain, où ça saigne beaucoup, où c'est très sanguinolent, où c'est très très violent. Il y a différentes formes aussi de polar.
Mais c'est ça, et en fait, je pense que les gens s'y retrouvent, parce que c'est la richesse des auteurs français, c'est-à-dire qu'on a des polars qui se passent à la campagne, des polars qui vont être historiques, qui vont être plus sociales, des romans noirs, des romans à frissons, à suspense. Chaque auteur a sa particularité, et puis les gens aiment bien qu'on parle de leur région. Hein. On voit aujourd'hui, on est beaucoup dans le régionalisme, donc c'est plus intéressant, je trouve, d'avoir une histoire qui se passe, comme dans la série, dans un petit village de l'Est, qu'aux États-Unis.
Ouais, mais là, ça sert l'intrigue. Pardon, le fait que ça se passe dans un village et que tout le monde se connaisse, c'est un élément essentiel.
Ah oui, bah les lieux sont toujours essentiels. Donc moi, j'essaye de les
même, situé en la France. Même histoire à Lyon, Bordeaux ou Paris fonctionnerait beaucoup moins bien.
Oui, oui, le lieu est bah oui. un vrai personnage.
Le huis clos, en fait.
Oui, voilà, le huis clos.
Cette idée-là. Ouais. Autre question, si je vous dis Astérix, le journal d'un prisonnier, Harry Potter, encore mieux, de quoi je parle ?
Des meilleures ventes. Des nouveautés qui arrivent sur une plateforme, non ?
Des meilleures ventes ?
Des meilleures ventes pour Noël. Eh oui, on revient quand même à Noël parce qu'il y a eu quand même un certain. Alors, la tendance se confirme, on aime les valeurs sûres, Astérix, ça c'est un truc qu'on peut mettre facilement sous le sapin. Des découvertes avec forcément le Goncourt, La Maison Vide de Laurent Mauvignier, et puis le livre de Nicolas Sarkozy, Le Journal d'un Prisonnier, La Femme de Ménage qui continue sa folle avancée de Freda McFadden, oui, c'est encore offert. Harry Potter aussi continue d'être offert massivement et dans les nouveautés.
C'est sans
bien
risque
sûr.
En même temps. Hein,
c'est vrai, ouais. C'est des grands classiques, vraisemblablement. Encore mieux de Léna Mafouf. Qu'est-ce que vous avez mis sous le sapin ? Qu'est-ce
et
que
toujours
vous avez
pas Ségolène Royal, c'est quand même fou.
Ça, je sais pas.
J'ai failli.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez reçu à Noël, offert à Noël ? On parle toujours des achats post-Noël, mais on parle pas des lectures pendant les vacances de Noël. Qu'est-ce que vous avez lu, Odile ?
Moi, j'ai lu Le Secret de Tircé, et j'ai oublié l'auteur, donc c'est totalement nul.
Non.
Qui est une super histoire, un peu d'une chasse au trésor. Mais sur un poème antique.
D'accord.
Aline de Sarzins, pour l'auteur du...
Sûrement, merci.
Très bien.
Et vous, Franck ?
Alors moi, j'offre souvent... Alors, il y a deux livres. C'est soit Des souris et des hommes, de Steinbeck, parce que je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait lire, y compris les gens qui ne lisent pas. Et La route de Cormac McCarthy, c'est vraiment un de mes romans fétiches. Et je me suis fait offrir un jeu d'échecs, parce que j'adore les échecs. toujours cet esprit un peu...
D'avoir un coup d'avance.
Mathématicien, et j'aime bien construire mes histoires comme un jeu d'échecs. Donc c'est un... Je joue beaucoup aux échecs en ce moment. Je me prends des raclés, mais en même temps... Bon,
c'est Stéphane Zweig, le
joueur d'échecs. Oui, le joueur d'échecs.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour tous les fans d'astronomie, amoureux de la Voie lactée, du ciel étoilé, de la Lune qui s'effeuille quart après quart quand le soleil prend congé. Bref, tous ceux qui aiment regarder le ciel et qui maintenant vont avoir comme image les fesses de Lisa Delmoitier suite à sa chronique. Alors, un côté pratique avec les fesses de Lisa, c'est qu'elles sont visibles même le jour. Eh ben ouais, première radio de France du coup, bravo, merci Lisa. Désolé pour Odile Vulmain qui nous a expliqué à quel point elle s'investit dans les rôles et notamment pour celui-là, pour son personnage, un travail qualifié par Nagui de... schizophrénie. L'analyse, l'art de recevoir.
L'admiration.
Première Radio France, même pour la promo. C'est quand même dingue, cette histoire. Et désolé, enfin, pour la direction de France Inter, direction qui a découvert ce matin qu'ils avaient embauché un animateur qui pisse dans des placards. Une chroniqueuse qui perd la vue quand elle glisse sur des petits pois surgelés. Nom de Dieu, Dream Team. Première Radio de France, imaginez les autres.
Il était deux fois déjà un succès sur le site France.tv, en diffusion ce soir les épisodes 3 et 4 et puis la semaine prochaine 5 et 6 sur France 2 à 21h10. Votre prochain roman, donc on sait déjà que ça vient de cette capsule de temporaire, c'est ça ?
Temporelle,
pardon ?
Oui, un des éléments. Alors,
l'autre mois, ça s'appelle.
Oui, l'autre mois, fin avril, le 28, et un thriller.
C'est pour moi, non ?
Ah ouais, ça peut fonctionner. Ouais.
Ah okay,
ouais, il y a un personnage féminin encore.
Prenez les droits, adaptez-le. Est-ce que les droits de l'autre mois sont déjà, avant que le roman ne sorte, est-ce que déjà vous avez un contrat d'adaptation ? J'ai l'impression.
Il faut d'abord que le texte circule avant la sortie entre les mains des producteurs. Ça va se faire bientôt, puisque j'ai terminé les corrections.
Avant la primeur ?
Donc, oui.
Elle veut l'exclure.
Ça va circuler.
Il y a la bande dessinée Le Village, où vous co-signez le scénario avec Nico Tacchian, et les dessins sont de Camille Kochanski chez Delcourt.
Oui,
c'est ça. Et puis le 4 décembre est paru également l'adaptation en bande dessinée de 1991, qui était le roman que vous aviez publié il y a 5 ans.
Oui,
c'est ça.
Première enquête de Charcot.
2021. Et Odile, est-ce qu'il y a une autre série, un autre projet à annoncer ? De quoi avez-vous envie ? D'une comédie ? Vous avez envie de changer totalement de registre après ?
Je reviens une comédie musicale.
Ah ouais ?
Ouais. J'adorerais ça.
Très bien. En tout cas, bravo pour ce succès. Merci d'être venu en parler. Il était deux fois, c'est sur France 2, ce soir pour deux épisodes et la semaine prochaine pour les deux derniers épisodes. Demain, c'est Constance Gay et Claire Borotra qui seront nos invités.